qui nous importe, c'est l'histoire, la grande avec un H majuscule.
Le Louis XIV de Rossellini.
Mon enfant, vous serez un grand roi. Rendez à Dieu ce que vous lui devez. Tâchez de soulager votre peuple.
Immobile dans son lit, dévoré par la douleur, avalé par les draps et les oreillers, Jean-Pierre Léo, on vient de l'entendre, confie son sceptre à un enfant, son arrière-petit-fils. C'est le film d'Alberto Serra qui sort sur les écrans. Léo est le roi soleil en ses derniers jours qui tente de fixer la mort en face pendant que ses courtisans considèrent chaque étape de son agonie comme ils ont scruté chaque épisode de sa vie. C'est la fin d'un monde qui avait duré plus d'un demi-siècle. Il y a 50 ans précisément, en 1966, Rossellini proposait, lui, sa vision de l'émergence de ce monde en réalisant la prise du pouvoir par Louis XIV. Ce n'était aucunement un film psychologique. Jean-Marie Pat, qui interprétait Louis XIV et qui avait l'âge qu'aura toujours Antoine Doinel, d'une voix blanche, disait, en les lisant plus qu'en les interprétant, les mots qui avaient été réellement prononcés par la cour en 1661. C'était un film politique, un film ethnologique aussi. Le spectateur vivait le pouvoir au quotidien. Offrons-nous l'occasion de retrouver ce chef-d'œuvre qui a été tourné sans manière, rapidement. C'était une réalisation de télévision. La télévision d'il y a un demi-siècle dont Rossellini imaginait qu'elle pourrait faire reculer l'ignorance. Son ambition, pensait-il, devait allier le plaisir du divertissement à la rigueur du document. On n'était encore qu'au début du règne de la télé, avant le temps de son despotisme.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Donc nous sommes en octobre 1966, c'est l'année même de la prise du pouvoir, que l'historien Pierre Goubert a publié un livre fondateur pour la contre-imagerie du grand siècle. Son titre se suffisait à lui-même, Louis XIV et 20 millions de Français. Au tout début du film, Rossellini, qui d'ailleurs se regarde davantage comme un manant que comme un artiste, rendra d'ailleurs un hommage involontaire au point de vue nouveau de Goubert, centré sur le peuple plus que sur la cour.
Louis XIV, le public le connaît, connaît même bien, deux fois très bien. Et la France, je crois, on ne la connaît pas très bien. On la connaît assez mal, tout au moins dans le public habituel des ouvrages d'histoire. Et j'ai essayé, si vous voulez, donner un... exagérant un peu, un coup de poing en arrivant. C'est-à-dire de présenter une France qui ne soit pas aussi magnifique qu'on le dit, en présentant d'abord son signalement démographique, en apprenant aux gens cette vérité constante des historiens, à savoir que la durée moyenne de la vie était proche de 25 ans à cette époque-là. Ensuite, en instituant un parallèle, peut-être un peu forcé, entre la Hollande, pourvu, si vous voulez, dans sa petitesse, dans son calvinisme, dans sa bourgeoisie, et de toutes les vertus de la croissance moderne. Et d'un autre côté, le grand royaume de France, avec sa richesse traditionnelle, un peu vieillotte, j'ai même dû employer, peut-être à tort, le terme de moyenâgeuse. Et d'un côté, vous avez cette Hollande qui a une banque d'État, ou quasiment d'État. La France n'en a pas. Elle va attendre un siècle et demi pour pouvoir en avoir une. La Hollande avec une marine magnifique qui fait le commerce français jusque sur les rivières françaises, avec une monnaie d'une solidité incroyable, avec une agriculture qui, en 1660, a réalisé à peu près tout ce que nous appellerons la révolution agricole entre 1760, si vous voulez, et 1860, alors que les Français ne s'intéressent en rien à l'agronomie.
Le roi, après tout, c'est un maître comme un autre. En Angleterre, on lui a coupé la tête, roi. Et il n'y a pas eu de tremblement de terre, ni d'éclipse.
T'as tort de dire ça. S'il n'y avait pas de roi, il n'y aurait pas de palais. Et s'il n'y avait pas de palais, nous n'aurions pas de travail.
Bon, un roi meurt, il y en vient un autre.
Et s'il était si puissant, ton roi, il serait le maître chez lui.
Oui, allez, assez causé. Le travail nous attend.
Donc l'Angleterre coupe la tête de ses rois, ou de son roi Charles Ier. La Hollande n'a pas de roi. Les premiers qu'on entend dans la prise du pouvoir de Rossellini, ce sont des mariniers au pied du palais où Mazarin va mourir. La prise du pouvoir, même si c'est sorti sur grand écran au mois de novembre 1966, c'est destiné en octobre 1966 au petit écran. Rossellini s'est alors détaché du cinéma, même du sien, il vient de passer, sans armes ni bagages, à la télévision. La télévision qu'il regarde avec l'ardeur du converti. L'ignorance convient très bien à ceux qui nous tiennent en laisse, dit-il. Mais la télévision, qui ne soupçonne pas de pouvoir dépendre un jour d'intérêts privés, eh bien, luttera contre l'ignorance. Et puis, Rossellini, qui au temps du néoréalisme a fait sortir les caméras des studios pour rejoindre la rue, imagine une télévision souple, mobile, frugale, peu coûteuse. Le témoignage de Jean Gruau, qui fut le second scénariste du film, à vrai dire, il y en a eu au moins trois.
Il disait, je me suis engagé à faire un film riche et très spectaculaire dans le cadre du budget des 90 millions d'anciens francs que vous m'avez alloués. Je veux montrer contre les mauvaises habitudes du cinéma qu'il est possible de le faire. Il avait écrit une lettre à Contamine, qui était le directeur de la télévision à ce moment-là, en mettant vraiment les pieds dans le plat, carrément. Malheureusement, je retrouve à la télévision les fausses complications et la défiance ridicule contre toute démystification en ce qui concerne la mythologie qui entoure les opérations de prise de vue. L'horreur des metteurs en scène géniaux. En effet, pour pouvoir réaliser ce film avec peu d'argent, il faut faire appel à beaucoup d'ingéniosité, de ruse et de métier. Or, ceci amène un grand désarroi chez les divers collaborateurs. Par exemple, si je refuse une Dolly et un métrage excessif de travelling ou d'autres choses aussi grotesques, on a l'impudence de dire dans mon dos que je vais bâcler le film en quelques coups de zoom. Ça... L'esthétique rossellinienne renoue directement avec le cinéma d'Auguste Lumière. C'est comme si rien n'avait existé entre. Alors, tout ce qu'on croit avoir été découvert, le montage, l'utilisation du champ contre champ, tout dans notre procédé technique... Il ne s'en sert absolument pas.
Ça ne l'intéresse pas.
Ça ne l'intéresse absolument pas. Je pense que probablement ce sont des fariboles et des amusements. Ça ne lui paraît pas utile pour s'exprimer.
Et c'est de là que vient la réputation de paresse, vous croyez ?
Oui, certainement, parce que c'est des gens... Alors qu'en réalité, chaque plan dans ces nuits est évidemment très très long, mais il nécessite une préparation très très minutieuse. Mais comme d'autre part, il connaît parfaitement bien son métier, il travaille beaucoup plus rapidement que bien d'autres... Et puis, comment dirais-je, il ne fait pas de manière sur le plateau, il ne joue pas au génie, vous comprenez, il fait son boulot, quoi, c'est tout. Quand Rossellini tourne une scène, la caméra, il trouve un point idéal pour la caméra, et grâce à un zoom, c'est-à-dire un travelling optique qu'il commande à distance, un
procédé
de son invention, qu'il commande à distance lui-même, sans prévenir les acteurs, ce qui permet de saisir des expressions de physionomie et d'obtenir des gros plans, extrêmement plus vivants que s'ils étaient, comme on dit, chiadés, avec un éclairage spécial, des gros plans qui se raccordent merveilleusement au décor, il les tourne en général en un, deux plans, enfin, simplement, au lieu de faire des milliers de plans, enfin des quantités de plans.
Donc la prise du pouvoir, ce sont de longs plans séquences, en plus en son direct, qui permettent aux spectateurs d'entrer de plein pied, d'être parfaitement synchrone avec ce qui se passe. Nous sommes, on peut donc dire nous sommes, en février 1661, dans le riche palais, regorgeant de tableaux, d'objets d'art, où le cardinal Mazarin se meurt.
Je viens voir son éminence.
Votre éminence, c'est le roi.
Dites à sa majesté que j'arrive sous un instant.
Les phares de son éminence. Sire, son éminence va vous recevoir dans un instant.
Sire, je dois tout à votre majesté. Je lui laisse tout.
Tout ? Que voulez-vous dire ?
Mes biens, ma fortune. Oui, sire, j'avais décidé ainsi. Je suis peut-être l'homme le plus riche d'Europe, mais je désirerais mourir comme si je n'avais rien. J'ai toujours pris plaisir à considérer cette pensée. Seulement, je supplie votre majesté de se montrer bienveillante envers ma malheureuse famille.
Je refuse. Je refuse, monsieur le cardinal. L'offre me touche comme un gage de votre attachement à ma personne, à ce qu'elle représente. Mais c'est au nom de ce qu'elle représente, au nom de l'État, au nom de la couronne, que je refuse. Ce n'est pas Louis, votre filleul, qui refuse. C'est le roi.
Songez, songez, sire, à l'augmentation de nos puissances que vous conférera la possession d'une grande fortune.
Je songe aussi à ce qui se dira dans le public lorsqu'on saura que ces grands biens m'ont été légués par l'un de mes sujets.
Ah, sire, vous serez un grand roi. Je meurs content car vous êtes en état de gouverner vous-même.
Giulio Cesare Salvini était le cardinal Mazarin. Le film de Rossellini est tourné en français sans doublage. Le cardinal a donc dit « je m'en vais, mais l'État demeure ». C'est un lieu commun de la monarchie. Sauf que Louis XIV n'a que 22 ans quand il perd son mentor et qu'il est marqué à vie par le souvenir de la Fronde. Il l'a vécu ballotté entre les intrigues des puissants et les émeutes du menu peuple, mal protégé par sa mère. Katharina Reine, dans le film, l'a bien nommée, hein. Elle est Anne d'Autriche, que restée seule, Louis XIV vient donc rejoindre.
Pardonnez-moi, madame, c'était mon seul ami, le seul, en dehors de vous, à qui je puisse me confier. Et je crains que sa disparition ne ramène les désordres de la Fronde.
Il me semble que votre trône est bien solide. La France unie derrière son roi, la noblesse apaisée.
Vous le croyez ? Vous croyez qu'en si peu de temps, tant de haines absurdes ont été oubliées ? Je crains que la mort du cardinal...
Je suis certaine que vous saurez trouver à M. Mazarin un successeur digne de lui. Les gens de talent ne manquent pas parmi les grands.
Enfin, ma mère, ne vous souvenez-vous de rien ? La Fronde vous a fait trembler, vous aussi. J'étais encore un enfant, mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Un prince de mon sang, à la tête de mes ennemis. Les humiliations subies en janvier 49, la nuit au cours de laquelle nous dûmes fuir, vous et moi, dans un mauvais carrosse, du Louvre à Saint-Germain. Nous aurions pu subir le sort de mon oncle d'Angleterre. Non, le pouvoir est partagé entre trop de mains que dirigent des intérêts contraires. Pendant la Fronde, l'honneur est devenu un objet de trafic. Comme le sucre ou les épices. Puisque nous avons depuis quelques règnes commis l'erreur de vendre des charges, aujourd'hui nous en souffrons. Le Parlement, qui devait régulariser et définir les droits et les devoirs des magistrats, ne se contente plus de ce privilège. Il prétend à d'autres pouvoirs. En Angleterre, le Parlement se retourne contre son maître et le livre au bourreau. Notre Parlement ferait de même, et le droit divin serait profané par ceux qui ne tiennent leur pouvoir que de l'argent. Il faut... que chacun reste à sa place. Il faut faire de cet État une réalité.
Il est temps de le dire maintenant, le roi, c'est Jean-Marie Pat. C'est un metteur en scène de théâtre d'avant-garde, plus qu'un comédien. Rossellini n'en a cure. Il ne monte ni à cheval, ni ne danse. Peu importe, ce qui intéresse Rossellini, c'est justement la gaucherie de sa silhouette trapue. Jean-Dominique de La Rochefoucauld, le scénariste numéro 3, puis interrogé par Roger Réjean, le scénariste numéro 1, celui du projet d'origine, Philippe Erlanger.
Il voulait faire un personnage timide au début du film et qui prenait de l'assurance au fur et à mesure que les séquences se déroulaient. Et Jean-Marie... ne voulait pas apprendre ses textes parce qu'on les donnait seulement le matin pour la journée.
Louis, avez-vous perdu l'esprit ?
Quoi, madame ? Quand mon trésor est vide, quand mon revenu est mangé 2 ans d'avance, quand la récolte est mauvaise et que mon peuple menace...
Et Roberto avait dit, mais c'est normal, c'est tout à fait normal, on va mettre des tableaux à la craie. Et donc, le roi ne dit pas ses textes, il les lit. Mais ça fait... Il prétendait, et peut-être c'est vrai... Ça donne une impression de quelqu'un qui parle au monde et à l'avenir, et pas à ses interlocuteurs proches.
Jean-Marie Pat, qui joue le rôle de Louis XIV et qui est du reste un excellent acteur, ce n'est pas son talent qui est en question, mais Jean-Marie Pat n'est jamais un personnage royal. Je crois que même à 23 ans, 22 ou 23 ans, c'est l'âge qu'avait le roi quand le film commence, je crois que Louis XIV devait déjà être royal.
Cela dit, à 22 ans, ce n'est pas le Louis XIV que l'on connaîtra plus tard. Il faut lire pour cela les rapports des ambassadeurs. Nous en avons un très précieux de l'ambassadeur vénitien, qui était le meilleur informateur de l'époque, qui date de très peu de temps avant la mort de Mazarin, qui indique qu'il s'agit d'un garçon timide, gauche, qui ne prend jamais la parole, que tout le monde s'accorde à trouver d'une intelligence au-dessous du médiocre. C'est d'ailleurs une formule que Saint-Simon reprendra, dont personne au monde n'imagine et qu'il prendra le pouvoir. Donc, au moment où le film commence, c'est un garçon qui est une espèce d'élève de Mazarin, très timide, et il est certain qu'il n'avait pas du tout, à ce moment-là, cette extrême aisance qu'il a acquise par la suite.
Alors l'assurance, Louis XIV va la gagner dès lors qu'il comprend comment tenir ses nobles. Il va se les attacher et en faire des spectateurs passifs des moindres détails de sa vie quotidienne. Ils seront attachés à la cour comme des galériens à leur banc. Quel plaisir de pouvoir considérer toutes ces faces enfarinées qui applaudissent au moindre de ses gestes. Cela vaut à tous les moments de la journée et ça commence dès le matin. Le rideau du baldaquin du lit royal est tiré et...
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Principus Celi et Terra, Gloria Tua, Kyrie Eleison.
Christe Eleison.
Christe Eleison.
Ternus Terra, Christum Celi, Sanctificum Lumum et Tum, Albinia Trinitum, Fia Jumum, Fico Tia, et cetera, Panemus Sum Pagam, Bissonia, Adimina, et nos inducas in tentationem.
Seigneur,
Oremus, dirigere et sanctificare, Vis et regnas in secula seculorum.
Amen.
Que se passe-t-il ? La reine appelle ?
Non, non. Elle fait savoir que le roi a accompli cette nuit le devoir conjugal.
Sa Majesté vient de commencer le 8e couvert.
Dressez le poulet. Préparez les corbeilles de fruits. Garnissez-le d'épinards. N'oubliez pas d'étiqueter du pain frit et de saupoudrer le bord du plat de pain râpé. Et les petits pois ?
Les petits pois ?
Le verdurier ! Avez-vous pensé aux laitues ? Allez, 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 allez ! Le cochon de lait ! Très bien, très bien. Très bien. Garnissez les corbeilles de fruits.
Découverte.
Un peu plus de sauce. La garniture un peu plus généreuse. La pâte à crêpes est-elle bien reposée? Vous préparez 12 crêpes à la confiture, 24 au chocolat, 24 à la vanille.
La serviette, mon frère, je vous prie. La musique, je vous prie, mon frère.
La musique du roi.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Pas d'invité aujourd'hui, c'est le film La prise du pouvoir par Louis XIV de Rossellini qui parle lui-même. Alors en décrivant par le menu, c'est le cas de le dire, les rituels de la monarchie qui va devenir absolue, Rossellini a pris un peu d'avance avec l'année de la prise du pouvoir personnel, 1661. Retour donc à la chronologie stricte, nous sommes en mars de cette année. Le conseil est convoqué au petit matin, bien sûr, à 7h.
Le roi ! Messieurs, je vous ai fait rassembler pour vous dire que jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu monsieur le cardinal. Il est temps que je gouverne moi-même. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les demanderai. Hors le courant du sceau royal, auquel je ne prétends rien changer, je vous prie et vous ordonne, monsieur le chancelier, de ne rien sceller que par mes ordres. Et vous, mes secrétaires d'État, je vous ordonne de ne rien signer, pas même une sauvegarde ni un passeport, sans mon consentement. Vous, monsieur le surintendant, je vous prie de vous servir de monsieur Colbert, que feu monsieur le cardinal m'a recommandé. Pour Lyon, il est assuré de mon affection. Je suis content de ses services.
Votre majesté m'avait ordonné de m'adresser monsieur le cardinal en ce qui concerne toutes les affaires de l'église. À qui veut-elle que je m'adresse maintenant?
À moi, monsieur l'archevêque. Vous savez mes volontés, c'est à vous maintenant de les exécuter.
Eh bien, messieurs, voilà qui va faciliter votre besogne.
Bien, qu'en pensez-vous?
Le roi est trop ami des plaisirs. Il se fatiguera vite de la tâche qu'il prétend assumer. D'ici un mois ou deux, les choses seront rentrées dans l'ordre.
Par exemple, la grande scène déterminante, quand il réunit le conseil des ministres et où il leur dit que désormais il gouvernera lui-même et qu'on ne doit pas signer même un passeport sans lui en référer, d'après les témoignages que nous avons, cette déclaration n'a pas du tout foudroyé les ministres, ils ont beaucoup ri.
On ne l'a pas pris au sérieux.
Non, Fouquet d'ailleurs c'est dans le film, Fouquet dit en riant aux autres ministres, eh bien messieurs, voilà qui va faciliter notre travail. Et quand on répète ça à la reine-mère, elle rit aussi, elle dit « il veut faire le capable ».
Philippe Urlanger, qu'on vient d'entendre, le scénariste de la première version, insiste donc. Le surintendant des finances Fouquet a bien eu cette réaction tranquille. Les mots qui ont été échangés dans la scène du conseil sont bien ceux qui ont été prononcés. On n'est pas dans la série Versailles de Canal+, cette année, où le conseiller historique dit qu'il est déjà content quand ça aurait pu se passer comme ça. À noter que la série de Canal coûtant près de 30 millions d'euros, on peut tenter d'impressionner le spectateur en restituant le faste des fêtes de l'époque. Pas question pour Rossellini, dont le budget est de 90 millions d'anciens francs. Il fait donc une ellipse sur l'inauguration par Fouquet de son château de Vaux-le-Vicomte, qui a laissé Louis XIV offusqué. Nous voici maintenant en septembre 1661. Louis XIV a décidé d'arrêter Fouquet. L'arrestation va avoir lieu à Nantes, dans sa province. Elle est confiée à D'Artagnan et ses mousquetaires. Rossellini ne s'intéresse pas du tout à eux, ni non plus d'ailleurs précisément à l'attitude de Fouquet. Il se tient à la place d'où le roi observe la scène depuis une fenêtre. Commentaire de l'historien du cinéma Jean Douchet.
Monsieur Fouquet, j'ai quelque chose à vous dire. Non. Ce sera pour une autre fois.
Un seul plan, vu d'en haut. Pas de pathos, juste la sécheresse de la scène. Les mousquetaires entraînent le surintendant vers sa prison roulante. Pas de coupe, ni d'ellipse. Nous sommes obligés de vivre la scène en temps réel, car nous sommes témoins à égalité avec le roi. Donc tout se joue sur la répercussion que la scène produit en nous. Comme à la vue d'un accident, tout dépend de notre réaction émotionnelle. Pour nous aider à la projeter en retour sur l'écran, le cinéaste prend soin de donner une note sentimentale en filmant intégralement le départ de Madame Duplessis dans sa robe écarlate, en chaise à porteur, jusqu'à sa sortie du cadre. Nous ressentons ainsi le caractère irrémédiable de cet accident politique, calculé et provoqué.
Filmé en plongée, Fouquet et sa maîtresse, l'entremetteuse, Madame Duplessis, ne sont bientôt plus que des silhouettes insignifiantes. On est entré dorénavant dans un univers du consentement où seul le souverain édicte les règles. Il faut se composer le visage qu'il souhaite et se plier à toutes ses ordonnances, même en matière d'habit et en matière d'habit jusqu'au dernier ruban qu'il voudra imposer.
Nous avons suivi scrupuleusement les commandements de Votre Majesté.
Il n'y a pas assez de rubans ni de dentelles.
Votre Majesté préfère-t-elle cela ?
C'est mieux. Monsieur Fouquet avait adopté cette mode allemande. Nous en tirerons le parti de la plus grande somptuosité. Monsieur Fouquet ne voyait là qu'un instrument de gloire, sans fond d'utilisation politique. Et de la sorte, les gens de ma noblesse ne sauront penser à autre chose qu'à leur pourpoint. Un avis comme celui-ci, Monsieur Colbert, devrait représenter une année de revenus pour un gentilhomme de ma cour. Monsieur Binet, essayez-lui la perruque.
Les ciseaux.
Avec cette perruque foncée, il faut assortir les moustaches. Ajouter les rubans aux chaussures et allonger les dentelles des canons. Monsieur Fouquet avait compris que l'on gouverne les esprits bien plus par l'apparence que par la nature profonde des choses.
De cette façon, cet habit répond-il mieux au désir de Votre Majesté ?
Non, il est trop pauvre. Il vaut mieux tout reprendre.
Tout reprendre, c'est la tâche que s'impose Louis XIV. Ah, les parquets Louis XIV, me disait Valérie Estaray, qui a préparé cette émission avec Frédéric Martin. Et puis on peut citer pour finir Philippe Erlanger, le cinéma en histoire, des choses exactes qui soudain apparaissent toutes neuves. Alors c'est une belle définition. Je remercie aussi Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui